nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Elle lui dit, il ne faut pas être si pessimiste. Je ne le suis pas, je suis réaliste. Tout ce qui nous entoure sent le pourri. C'est la fin du monde. Nous sommes tous des momies. Les dieux sont morts. Il n'y a plus qu'à attendre notre fin. Alors tu ne fais plus rien? Si j'écris. Pourquoi? Comme ça, pour moi, pour sortir de ce monde. Tes histoires sont gaies? Idéalistes? Non. Elles sont faites pour que je dise ce que je ressens et pas pour m'exprimer. On peut sortir du monde qui nous entoure en écrivant ce que l'on ressent. Elle lui dit, je comprends pas vraiment. Tu écris pour sortir du monde en écrivant tout ce qui te gêne dans ce monde. Il lui répond, si tu veux, ce que j'aime dire ou faire dire... leur vérité aux gens. Tiens, regarde. Par exemple, quelqu'un m'accuse d'une chose que je n'ai pas faite. Dans la réalité, je ne peux pas m'exprimer. Alors que par une histoire, j'explique ce qui m'est arrivé. Un autre exemple. On me met prise dans la vie. Je ne peux pas dire ce que je ressens. J'ai envie que l'on m'aime et que les gens puissent me regretter lorsque je serai mort. Puissent regretter ce qu'ils ont fait vis-à-vis de moi lorsque je serai mort. Dans la vie, je me tais. Et pourtant, je souhaite, c'est leur dire ça. Alors, j'écris mon suicide et comment je veux que les gens réagissent. Tu comprends? Oui, je comprends mieux maintenant. Elle se dit qu'il est malheureux et seul. Et qui n'a personne pour dire ses peines, et c'est pour cela qu'il écrit. Elle lui dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il lui répond, partir, loin, loin, faire un grand voyage. Elle lui répond, moi aussi, j'ai envie de voir Paris, Londres, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, c'est tout. Il lui dit, oui, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Elle lui dit, nous n'en avons pas. Mais peut-être qu'un jour, qu'une de tes histoires aura du succès. Elle lui dit, Jules a plus de chance que moi. Elle hausse les épaules et lui dit, oh Jules. Il lui dit, je croyais qu'il était ton frère préféré. Je n'ai pas de frère préféré. La preuve, si tu pars, je pars avec toi. Il lui dit, je te prends au mot. Elle se lève. Et lui dit, si tu veux me prendre au mot, gagne suffisamment d'argent pour le voyage. Écris. Et elle quitte la pièce. Tu veux me prendre au mot, gagne suffisamment d'argent pour le voyage. Écris. Désormais, ils se voient souvent. Jules ne se rend pas compte que sa sœur va voir son frère. Heureusement, car il serait jaloux. Mais il est plus pris par ses études. Et ses nouvelles qu'il continue à écrire. Apolline fait toujours un peu de figuration sans que ses parents ne le sachent. Elle aime Charles-André parce qu'il fait plus mûr, plus homme physiquement. Il paraît plus mûr, mais en réalité, il l'est moins que Jules. Il a l'air plus réfléchi, mais il n'est pas sûr de lui. Il a le caractère d'une personne aigrise qui en veut à tout le monde, critique tout, mais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, il fait réfléchir, mais au lieu de réfléchir à des choses sérieuses, il rêve à des histoires. C'est un enfant qui n'arrive pas à entrer dans le monde des adultes. Apolline rêve, mais elle sait ce qu'elle veut, elle, et en plus, concrète, et veut avoir une vie aventureuse, pleine d'expérience, et veut que son frère l'aide à mener cette vie, car elle croit en lui. Elle voit en lui un compagnon idéal, quelqu'un qui peut lui ouvrir la porte de l'inconnu. Elle se dit qu'il sait des tas de choses et qu'il lui fera connaître. En réalité, il ne sait pas grand-chose, puisqu'il sort très peu. Même pour le sexe, il en sait moins qu'elle, vu le peu d'expérience qu'il a eu. À part l'aventure de l'été 70 à Biarritz, il n'a rien connu d'autre. Ses besoins, il les passe en solitaire. Charles-André rêve de partir à l'aventure avec Apolline, comme ça. Ça lui permet de rêver à ce qu'il ferait. Et si ce n'était que lui, il se contenterait de rêver à ce qu'il ferait. Mais elle est là, et à chaque fois qu'elle le voit, comme elle y croit vraiment, elle lui fait honte de son inaction. Ils sont allongés sur le lit. Elle lui dit « J'ai réussi à économiser un peu d'argent. Et toi ? Pas de nouvelles pour mes écrits. T'en fais pas. Il paraît qu'il faut se déplacer pour aller voir les éditeurs. » Il soupire et lui dit « Oui, mais pour le moment, il n'y a rien. Et puis, je n'ai pas d'argent pour partir. » Elle soupire « Je veux tellement partir. Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Mais avant de partir, je veux que tu m'apprennes des tas de choses. Je ne veux pas avoir l'air gourde. Et qu'est-ce que tu veux apprendre ? Tiens, par exemple, fumer. » Il hausse les épaules, car il a eu peur qu'elle lui demande quelque chose qu'il ne connaisse pas. Il aurait eu honte. « Si tu veux, tiens. » Il prend du tabac et du papier et lui montre. Un soir, Constantin Bonnardin est invité au restaurant par un de ses amis, M. Hubert Morceau, homme de 50 ans, grand, fort, cheveux bruns, visage jovial, habillé d'une redingote noire et d'un gilet beige. Ils viennent tous deux de traiter une affaire, l'achat d'un immeuble luxueux boulevard des Belges. Constant est devenu le propriétaire du terrain et Hubert de l'immeuble, ce qui fait qu'il doit donner un loyer à Constant. La location du terrain est pour 75 ans. Ensuite, Constant pourra le louer à qui il voudra. Bonne affaire pour tous les deux. La location des logements vont rapporter gros à Hubert et le loyer du terrain remboursera son prix en quelques années. Puis, les Beaumandins auront tous les bénéfices de l'affaire en faisant reconstruire un immeuble. Constant et Hubert se sont connus au collège et se rendent de petits services. Et tout en mangeant, Hubert lui demande « Tu es sorti ces derniers temps ?»«
Non.
Tu sais, j'ai beaucoup de travail. Je rentre tard. » Hubert ou ses épaules. Moi aussi, j'ai beaucoup à faire, mais je garde toujours mon temps pour me distraire. C'est important. La détente, tu sais.
Oui, mais toi, tu n'as pas une famille. Tu es plus libre.
La liberté, on la prend. Ce soir, tu es libre ?
Oui, puisque je suis avec toi.
Eh bien, nous allons aller au théâtre.
Oh, au théâtre, tu sais, moi...
Moi non plus, mais je n'y vais pas pour les pièces. Il y a de charmantes jeunes filles, très douces, très gentilles, avec qui on puisse passer un bon moment. Constant fait la grimace.
Moi, tu sais, les gens putent.
Hubert ouvre les épaules et lui dit, ils sont pas des putes. Elles sont très sérieuses. Et d'ailleurs, j'en ai une. En ce moment, je te la présenterai.
Oui. Cela ne me dit pas grand-chose.
Sois pas bégueule. Et viens avec moi.
Bon, si tu y tiens tant.
après le dîner, Constant suit Hubert qui le mène au théâtre des Célestins. Il s'installe dans une loge face à la scène au premier étage. Comédie où les portes claquent, les gens crient, rient, rien de bien intéressant. Constant s'ennuie, Hubert est aux anges. À chaque fois qu'une soubrette ou qu'une figurante entre, il pousse des coups de Constant et lui dit « Regarde celle-là, elle est bien, hein ? Je la connais. » Constant ne dit rien, il voit des filles fardées à outrance. Le visage blanc, les yeux noircis, les pommettes rouges et les lèvres aussi. Une petite bonne entre en scène. Constant a l'impression de la connaître. Hubert lui dit « Je la connais celle-là. C'est une nouvelle. Elle est très bien. Je peux te la présenter si tu veux. Je crois qu'elle est libre pour le moment. Elle s'appelle Apolline. » Constant devient tout blanc. Oui, il la reconnaît. C'est bien elle, sa fille, qui fait la bonne sur une scène et qui fait la pute après. Et on vient la lui proposer, sa fille. Il est furieux, il bougonne, il se lève pour aller voir sa fille. Hubert lui dit, mais qu'est-ce que tu fais?
Je suis
Joe Coulisse. Tu ne peux pas, tant que la représentation n'est pas finie. Sacré Hubert, va.
Qu'on fait,
on le tue. Sacré Constant.
Non, assurément, ça n'empêche pas les sentiments.
Tu es donc si pressé que ça? Constant a envie de lui donner un coup de poing sur la figure. Furieux, il se rassoit. Heureusement pour lui, la fille ne réapparaît pas sur la scène.
Oh, misère de la fille. C'était pas mauvaise homme, mais c'était mon mari.
Rassurez-vous, ma veuve! C'était une fausse alerte. Tu peux sécher tes larmes, ton petit mari est vivant. Pas pour longtemps.
Une fois que la pièce est finie, ils vont en coulisses. Constant voit que c'est sale, mal éclairé. Il y a des cordes de partout, des morceaux de décor. Ça sent la poussière, la transpiration. Les couloirs sont petits. Les portes entrouvertes laissent entrevoir les loges où s'entassent des filles à demi-nues qui rient, crient, se déshabillent ou se démaquillent. Hubert lui dit « Viens, je vais te présenter Fernande. » Constant lui dit « Non,
J'aimerais mieux que tu me présentes ta petite Apolline. Sacré Constant, va. Elle t'a tapé dans l'œil, celle-là, hein? Tu as de la chance. Elle est libre pour le moment. Mais elle est très recherchée. Allez, viens, on va la chercher. Oui, c'est ça. Allons la chercher. Ici son ami. Qui a frappé une loge. Et entre. Constant le suit. Il y a trois filles dans la loge, elles sont toutes les trois assises à se démaquiller. Constant voit sa fille qui ne le voit pas. Hubert lui dit « Apolline, ma chatte, je t'ai amené un ami. » Elle se retourne et voit son père. Elle devient pâle. Il la voit en chemisette blanche, jupon noir, qui monte ses jambes jusqu'en haut des cuisses. Constant lui dit « Va t'habiller et viens avec moi. » Elle se lève et va s'habiller derrière un paravent. Hubert lui crie « C'est un sacré client, mon ami, hein, ma chatte !» Apolline revient, habillée, démaquillée. Constant la prend par la main et ils sortent. Dehors, ils ne se disent pas un mot. Il la fait entrer dans un fiacre. Durant le trajet, ils ne se parlent pas. Arrivé chez eux, Constant l'amène à son bureau. Il voit ouvrir la porte, il la pousse dans le bureau. Il referme la porte. Voilà pour faire la putain. Apolline baisse les yeux et lui dit « Je ne faisais pas la putain. » « Et que faisais-tu ? » « Du théâtre. Tu appelles ça faire du théâtre, toi ? » Mon ami Hubert me présente ma fille pour que je fasse comme une courtisane. Elle lui dit, je suis pour rien si ces messieurs prennent des actrices pour des filles. Les coupables, ce ne sont pas nous, mais ces messieurs. Vous n'avez que ce que vous méritez. Lorsqu'on se promène à moitié nu sur une scène maquillée comme une fille pour aguicher le client, je me promène pas à moitié nu sur la scène et je joue pas une fille, je joue la comédie. Tu appelles ça jouer la comédie, toi? Tu te rends compte que tout le monde peut te reconnaître? Et nos amis, ta famille, j'ai jamais pensé que je pouvais te voir? Si, bien sûr. Et je suis même soulagé que tu m'aies vu. Comme cela, les choses sont plus claires et tu sais ce que je fais. Oui, je sais ce que tu fais, et je t'interdis de continuer. Dès demain, je vais voir la supérieure du Petit Versailles. Non, père, je ne veux pas être enfermé au Petit Versailles. Tu feras ce que j'ai décidé. Va dans ta chambre. Elle sort du bureau. Et monte à sa chambre. Passant devant la chambre de son frère Charles-André, elle frappe et entre. Il est comme d'habitude allongé sur son lit. Elle lui dit « Père m'a vu sur une scène et il veut me mettre chez les religieuses. Je ne veux pas. Partons. » Il ose les épaules et lui dit « Avec quoi ?» Elle lui dit exaspérée « Tu n'as rien. Cherche, travaille, fais quelque chose. » Il lui dit « Je n'ai rien. » Elle ose les épaules et sort de la chambre.
Va dans la sienne.
Elle se dit, je n'ai pas d'argent. Je dois trouver de l'argent pour partir avec Charles-André. Elle ne veut pas partir seule, car elle ne se sent pas assez forte pour aller à l'aventure. Apolline n'en veut pas à Charles-André. Elle ne se rend pas compte qu'il est incapable d'agir, car il est trop pris. Elle est prise par son départ. Lui, il est pris dans ses rêves. Ce qui fait qu'elle ne voit pas, qu'il ne peut pas agir. Pendant ce temps, le père est furieux. Dans son bureau, il se dit « J'ai deux enfants qui tournent mal. Charles-André qui ne fait rien, passe son temps dans les cafés et Apolline qui se dévergonde. Je dois mettre le haut là. » À tout ça, mettre à la porte mon fils et enfermer jusqu'à son mariage ma fille. Heureusement que j'ai Jules. Le lendemain, avant de partir, le père dit à sa femme qu'il interdit à sa fille de sortir de sa chambre. « Qu'a-t-elle fait ?»«
Elle s'est conduite très mal. J'ai décidé de la mettre en pension. Allez, à ce soir !»
Apolline reste toute la journée enfermée dans sa chambre où on lui apporte ses repas. Elle passe son temps à réfléchir à savoir comment elle pourrait trouver de l'argent. Jules se demande pourquoi sa sœur est punie. L'après-midi, au retour de ses cours, il va frapper à la porte de la chambre de sa sœur.
Entrez.
Bonjour. Elle est assise devant la fenêtre. Elle lui dit « Je croyais que c'était mère. Je suis venue aux nouvelles. Que se passe-t-il » Il s'approche. Elle lui dit « Père m'a vue sur scène et ça a fait tout un scandale. » était accompagné d'un ami qui passe son temps à courir après les filles. Alors bien sûr, il pense que je traîne et veut me mettre en pension. Pensionnaire au petit Versailles. Que vas-tu faire? Je ne me laisserai pas faire. Je vais partir et vivre ma vie en jouant au théâtre. Jules est triste et lui demande « Et moi dans tout ça, nous ne verrons plus, nous ne serons plus ensemble ?» Elle hausse les épaules et lui dit « Eh non, que veux-tu ? Mais je penserai très fortement à toi. Tu ne m'aimes plus ?» Elle se lève, le prend dans ses bras et lui dit « Si je t'aime, tu es mon petit frère. » Avec ses deux bras, il se dégage et lui dit « Alors, tout ce que nous avons fait ensemble ne compte plus, c'était qu'un jeu pour toi. » Elle lui dit « Non. »
Il sort courant pleurer dans sa chambre.
Elle soupire et se dit « Comprendra plus tard. Il comprendra. Il faut que je vive moi aussi. » La journée se termine et Charles-André n'est pas venu la voir. Elle est triste et déçue. Elle n'est pas sortie de sa chambre et la pièce n'était pas fermée. Elle n'a pas voulu désobéir pour ne pas avoir l'humiliation d'être dénoncée par un domestique. Dans la nuit, elle est décidée. Elle ne veut pas attendre être menée en pensionnat. Au milieu de la nuit, elle s'habille
en faisant le moins de bruit possible.
Elle sort de la chambre. Elle a laissé à terre un petit sac de voyage qu'elle a fait avant de se coucher.
Long du couloir. Descend les escaliers et va vers le bureau de son père. Elle est entrée. La pleine lune éclaire suffisamment. Elle se dirige vers le bureau. Ouvre le tiroir. Prend une clé. Va vers le mur. Et accroche un tableau. Elle le décroche. Derrière se trouve un coffre. Elle a souvent vu son père le faire. Il ne se cachait pas devant ses enfants. Tourne une roue en avant. Fait un numéro. Mets la clé dans la serrure, le coffre s'ouvre. À l'intérieur se trouvent des liasses de billets et des pièces, beaucoup de pièces. Des pièces d'or, même grand que les liasses. Referme le coffre. Puis, va mettre la clé dans le tiroir du bureau. Et sort du bureau.
Elle a mis la liasse d'argent dans son corsage et monte à l'étage. Arrivée en haut des marches, elle trouve Jules en chemise de nuit et lui dit « Je sais ce que tu as fait. Alors, tu t'en vas ?» Elle baisse les yeux et lui dit « Oui. » Il lui dit « Je ne vais pas crier. » Je vais te laisser partir puisque tu veux t'en aller. Tu pars seul? Non. Il le sait. Elle lui dit. Je vais le lui dire. Il lui demande. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Il me protégera. Il ouvre ses épaules et lui dit. Nous aurions pu partir ensemble. Elle ne lui répond pas. Il lui demande. Tu m'aimes toujours ?
Oui.
Mais nous sommes, il lui dit, frère et sœur. Et lui n'est pas ton frère ?
Oui, mais...
Je n'ai pas dit que je l'aimais.
Il se fait tard. Je dois partir.
Il lui dit, eh bien, pars ! Et il va dans sa chambre. Elle va frapper à la chambre de Charles-André. Elle entre. Il est comme d'habitude au lit, en effus. J'ai approché de lui.
Elles veulent qu'il l'accompagne, ne la déçoive pas. Elle a besoin de son grand frère. Il la regarde surpris. Elle lui dit, « Voilà, j'ai l'argent, nous pouvons partir. » Il lui répond, « Eh bien, toi ?» Elle lui dit, « On part ce soir, j'ai pris l'argent dans le coffre de père. » Il réfléchit une minute, soupire et dit, « Tu as raison, de toute façon, depuis quelque temps, je ne faisais rien. J'étais incapable d'écrire une ligne. J'en avais même plus envie. Ça va me changer les idées. » Il se lève. Il est en chemise de nuit. Il n'y a pas à dire, t'es une sacrée fille, toi. Quand père va s'en apercevoir, je m'habille et on part alors. Oui, je vais chercher mon sac. Parce que tu as fait ton sac. Et elle sort de la chambre.
Lui commence à s'habiller, pensant à la farce qu'il va faire à sa famille.
Une fois habillé, il veut boire un dernier verre. La bouteille se trouve sur la table de nuit. Après avoir bu, il se dit, on va encore dire que c'est moi qui ai forcé la petite à partir avec moi, en prenant l'argent. On a frappé à la porte. Entre. Elle entre avec son sac et habillée d'un manteau de voyage et lui dit, tu es prête ?
Oui.
Bon, eh bien partons. Tu ne prends rien ?
Non.
Sans bruit, il quitte la maison. Charles-André, tout en souriant, se dit, quelle fille! Les rues sont désertes. Ils marchent un bon pas sans se parler. Arrivés à la gare, ils prennent le train pour Paris. Ils sont seuls dans le compartiment. Le train file dans la nuit. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Ils se plaquent contre les accoudoirs. La regarde. Elle regarde droit devant elle. Il lui demande, qu'allons-nous faire maintenant ? Elle le regarde et lui dit, allons chercher un hôtel et du travail. Tout d'un coup, elle pense, oh, mon Dieu, tu as oublié tes écrits. Il hausse les épaules et lui dit, je n'ai rien écrit de bon.
Dans la matinée, après un voyage éreintant, ils arrivent à Paris. Un Paris gris sous la pluie les accueille. En sortant de la gare, elle est déçue. Elle s'attendait à quelque chose de plus beau, de plus grandiose. Elle aurait aimé, c'est d'avoir l'impression de changer de monde. Mais là, non, rien, rien, rien qui éblouit. Ils vont dans un café en face de la gare. La serveuse des serres sans les regarder, avec un rien de dédain. Le café est hors de prix, mais c'est plus de l'eau chaude qu'autre chose. L'endroit est sale, triste. La pièce est très quelconque, et les clients aussi. Apolline a même l'impression qu'ils sont plus misérables qu'à Lyon. Après avoir bu leur café, ils sortent. Il pleut toujours. Où sont les beaux boulevards, les belles rues, les magasins luxueux, les parisiennes, les parisiens si bien mis? Charles-André lui dit, il va falloir trouver une chambre. Il tourne autour d'elle et ne sait où aller. Il lui dit, demandons à un commerçant. Une demi-heure plus tard, on leur a indiqué un petit hôtel, pas très cher, dans une rue étroite et sale, plein de marchands de vin. La rue sent le mauvais vin. L'hôtel est un immeuble de 3 étages, très étroit, triste, sans confort. Il s'appelle l'Hôtel Moderne. On entre par une petite porte étroite vitrée, qui donne dans un couloir où se trouve la banque. Un petit homme chauve, gros, les reçoit.
« Vous désirez ?»
Charles-André lui dit. « Une chambre. »«
C'est pour une heure ou la journée ?»
Charles-André lui répond. « C'est-à-dire que c'est pour plusieurs jours, une semaine ou deux. »
« Je ne suis pas contre, mais il faudrait payer à l'avance. On n'a pas l'habitude ici. »
Apolline lui demande. « Combien ?» L'homme sourit et lui donne une somme. Apolline la lui donne.
« Bien, si vous voulez me suivre. »
Il leur fait monter un vieil escalier de pierre étroit. Ça sent la javel et la pisse. À l'étage, il y a un long couloir avec des portes en bois. Circulent des bonnes avec des draps sous le bras. On entre, on sort des chambres. L'homme va ouvrir une porte.
Voilà, c'est ici.
Ils entrent.
Voilà, c'est ici.
La pièce est un couloir étroit, juste de quoi mettre un lit à 2 places. Il y a un lavabo, un bidet et un paravent en jonc. Une petite fenêtre. C'est d'un triste à en mourir.
Ça vous va ?
Charles-André fait « Oui ». L'homme, avant de partir, lui tend les clés. Ou plutôt la clé. Apolline soupire et dit « Si c'est ça, Paris ?» Il lui dit « Eh oui, ma petite, tu n'as pas lu Baudelaire, Verlaine et le grand Balzac ?» Elle lui dit « Non, mais Paris, pour moi, c'est Sarah Bernhardt. » Charles-André lui dit « Eh bien, ta grande dame n'est pas prête de venir te rendre visite ici. » La prend dans ses bras et lui dit, Sois pas triste. Tous les grands artistes sont passés par là. Je chercherai du travail dans un journal. Elle lui demande. Et moi?
Ah, toi? Tu as déjà fait la soubrette sur les planches. Tu la feras bien dans la vie.
Elle lui dit vexée. Surtout pas.
Il lui dit. Bon, eh bien, en attendant, allons manger un morceau. Et ils sortent.
Ils trouvent un petit restaurant très peuple, avec de la musique d'ordre de barbarie. On leur sert de la soupe aux choux, des tripes, comme dessert du fromage, le tout arrosé de rouge. Il n'y a pas de nappe sur la table. Le resto fait bistrot. Il y a des va-et-vient très populaires, des marchands de journaux, des fleuristes, des vendeurs de cigarettes viennent offrir leurs produits aux consommateurs. Ils ont des casquettes et le nez rouge. Ça va, ça vient, ça parle. Tout en mangeant, Pauline voit tout ça. Elle rit et elle dit « C'est un Paris très peuple. Je n'ai jamais été aussi près du peuple. Je me demande comment je vais faire pour grimper jusqu'en haut de l'affiche. » Il lui dit « De toute façon, je ne peux pas descendre plus bas. Et puis, lorsque tu auras un jour à jouer le rôle d'une femme du peuple, tu vas la jouer en toute sa vérité. Pas comme les comédiennes qui font des grimaces pour interpréter certains rôles. Pour jouer vrai, il faut connaître ces gens. » Elle lui dit « Tu as raison. »
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.